Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le réveil culturel. Tous les mardis, vous le savez, c'est l'actualité des expos avec aujourd'hui au programme art et cinéma à l'occasion de deux expositions. Tout d'abord, Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes au musée d'art de Nantes jusqu'au 3 février. Et ensuite, art et cinéma, les liaisons heureuses au musée des beaux-arts de Rouen. C'est jusqu'au 10 février. Et les commissaires de ces deux expositions, Claire Lebossé pour Charlie Chaplin et Johan Snersch pour art et cinéma, sont mes invités ce matin. Le réveil culturel, c'est tôt à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son, Denis Jacaz.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Ici, on commençait par Charlie Chaplin. Bonjour Claire Lebossé.
Bonjour.
Alors, c'est vrai, si le cinéma a été dès les années 1910 considéré comme un art, c'est beaucoup grâce à lui, grâce à Charlie Chaplin. Avant lui, le cinématographe était plutôt considéré comme une attraction foraine. Et pour reprendre Louis de Luc, donc le réalisateur, le scénariste et surtout le grand et le premier théoricien et critique de cinéma français, Chaplin est le premier de la première époque de son art. Il est responsable de ce que le joujou est devenu un art. On est à peu près d'accord. Mais en ce moment, au musée d'art de la Cité des Ducs à Nantes, l'expo nous donne à voir comment le burlesque de scène de Charlot a inspiré des artistes comme les surréalistes.
Tout à fait, puisque outre cette conclusion à laquelle arrivait De Luc, à savoir que Charlie Chaplin est le premier artiste de son genre, hein, c'est ce que disait aussi Richuto Canudo qui a inventé le concept de septième art.
Oui, c'est vrai, c'est lui qui a inventé ce concept.
Tout à fait, en 1909, puis en fait il en a trouvé la confirmation quand il a découvert le personnage de Charlot en 1914.
Donc ami de Fernand Léger, mais on y reviendra.
Et il se trouve qu'effectivement, les artistes de son époque ne s'y sont pas trompés non plus. Et très vite, ils se sont fascinés pour ce personnage de Charlot qu'ils ont découvert sur les écrans dès 1915 en France. Et tous y ont trouvé finalement une communauté d'intérêt avec leurs propres travaux.
D'autres artistes vont être influencés, bien sûr. D'autres courants artistiques vont aussi être influencés par Charlie Chaplin.
Tout à fait, on pense aux surréalistes, mais en fait, on trouve aussi des traces chez Dada. En 1919, dans la revue Dada, d'ailleurs, on proclame l'adhésion de Charlot Chaplin. Il y a toujours une confusion sur Charlie Chaplin et sur Charlot, au mouvement Dada. Bon, bien sûr, Charlie Chaplin n'est pas du tout au courant qu'il a adhéré à Dada. Il est probablement d'ailleurs pas au courant de ce qu'est Dada. Mais effectivement, il y a une façon comme ça dont les avant-gardes vont s'emparer de cette figure parce qu'elle est devenue complètement iconique et c'est aussi une façon de s'adresser à tous de se revendiquer de Chaplin.
Et en même temps, Charlie Chaplin était très intéressé par l'art.
Il était intéressé par l'art, mais on a très peu d'informations précises sur son intérêt, par exemple, pour la peinture. On sait qu'il a rencontré Picasso, ils ont d'ailleurs eu des échanges.
Qu'il a essayé lui-même la peinture avec cet autoportrait.
Oui, mais finalement, c'est à peu près le seul cas qu'on connaisse de Chaplin s'intéressant comme ça lui-même, en premier lieu, hein, pratiquant lui-même une activité comme ça picturale ou de dessin. Il n'a pas vraiment collectionné non plus dans son domaine de Vevey où il est décédé en 77. On retrouve des peintures typiques d'un intérieur bourgeois, mais pas typiques d'une avant-garde. Donc on n'avait vraiment pas cet intérêt pour la peinture chez lui. En revanche, on sait qu'il visitait des musées, puisque ça, il le mentionne dans son autobiographie, mais justement sans nous dire quoi, j'aurais tellement aimé trouver. Mais par contre, on sait qu'il était très attentif à la production cinématographique de son temps. Il connaît Buñuel, il a vu ses films, René Clair valorise son travail. Donc on a par contre ces liens, il a mis avec Eisenstein.
Alors, Charlie Chaplin, ça tombe bien puisqu'il y a un anniversaire, c'est les 130 ans de la naissance de Charlie Chaplin, d'où cette exposition. Mais peut-être que vous aviez pensé à cet anniversaire ou pas du tout d'ailleurs, ou c'est juste un hasard.
En fait, c'est un pur hasard.
Parce qu'il y a deux expositions autour de Chaplin. Ah, donc chez vous, au musée d'art de Nantes, Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, mais il y a aussi l'exposition ici à Paris à la Philharmonie.
Oui, tout à fait. Une exposition à la Philharmonie qui s'appelle Charlie Chaplin Homme Orchestre et qui s'intéresse d'une façon un peu provocante finalement à la façon dont Chaplin s'est intéressé dès le début de sa carrière cinématographique à la question du son. Pour un artiste du muet, c'était effectivement quelque chose d'assez étonnant. Mais en fait, on se rend compte que même dans...
Alors que vous, c'est le visuel plutôt. Hein.
Nous, c'est complètement visuel, effectivement. Ouais. C'est la mise en rapport entre des extraits de films de Chaplin. On présente un grand nombre d'extraits de films et la façon dont il pouvait trouver écho directement dans la production des avant-gardes, on trouve des citations immédiates de films de Chaplin, hein, mais aussi comment dans le travail de Chaplin, on va trouver une communauté d'intérêt autour de thématiques. Le rapport à la machine, la transformation des objets qui justement est chère aux surréalistes, la mise en abîme du spectacle, ce rapport au cirque qui est aussi fondamental pour les artistes du début du XXe siècle, et puis la préoccupation pour l'histoire, puisque c'est l'engagement politique, c'est aussi au cœur des avant-gardes et du travail de Chaplin, c'est indéniable.
Peinture, photographie, dessin, sculpture, extrait de film, vous venez de le préciser, Claire Lebossé, pour essayer d'illustrer ou de questionner le dialogue et les porosités entre les travaux cinématographiques de Charlie Chaplin et les œuvres de ses contemporains. Il y a à peu près 200 pièces. Alors, ça permet quand même une relecture de toute cette période des arts visuels de la première moitié du XXe siècle.
Tout à fait, parce que c'est vraiment, on tire finalement le fil du cinéma de Chaplin comme une façon d'investiguer d'une certaine façon la façon dont les avant-gardes se sont déployés à ce moment-là. Ça permet aussi, je trouve, d'une certaine façon de remettre dans le contexte la pratique de l'art au début du XXe siècle. Et les artistes, ils sont ouverts à tout. Ils regardent le cinéma, ils regardent les affiches. Fernand Léger parle d'un art de la devanture. Enfin, ce sont vraiment des artistes qui sont des éponges, hein, qui regardent tout ce qui les entoure. Et donc forcément, cet événement culturel sur la toile qu'est l'apparition de Charlot, elle va considérablement les influencer.
D'où l'intitulé de l'exposition, parce qu'au début, quand j'ai vu Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, je me suis dit, mais c'est uniquement pour essayer d'appâter les gens en disant comment Charlot, qui est quand même l'acteur le plus populaire du cinéma, pouvait-il être aussi récupéré par les avant-gardes.
Et ben, je crois qu'en fait, les avant-gardes, tous ces artistes, ils sont des spectateurs comme on l'est nous aussi, et donc ils n'ont pas été exempts de cette chaplinitis. Le terme existe dès 1915 pour parler de cette contagion. Le personnage n'a pas un an que déjà il est l'objet d'une grande popularité. En fait, l'exposition, elle s'intéresse vraiment à ce jeu, même pas d'aller-retour, puisque je vous disais, on sait très peu de choses de ce que finalement Chaplin a pu penser de cela, mais comment les avant-gardes se sont emparés de son cinéma. Alors, on trouve par exemple des photomontages de Laszlo Molinage qui reprennent la silhouette de Charlot dans l'affiche du cirque. On va trouver un dessin de Chagall qui cite à la fois la ruée vers l'or et le gosse. Et puis surtout, on va trouver aussi beaucoup de documents qui sont vraiment un substrat assez solide pour prouver l'intérêt des avant-gardes, puisqu'on va trouver à la fois les reproductions des dessins de Léger dans plusieurs publications, comment ce dessin de Léger est arrivé jusqu'en Russie et a fasciné les constructivistes qui eux-mêmes ont commencé à fantasmer un personnage de Charlot alors que ces films n'étaient pas encore visibles en URSS. Donc il faut vraiment imaginer la façon dont l'imaginaire se développe autour de ce personnage. Et puis tous les textes des surréalistes, les premiers poèmes d'Aragon en 1918, sont sur Charlot. Il va ensuite théoriser sur le cinéma, toujours en reprenant l'exemple des films de Chaplin. Puis Dada, dont je vous ai cité cet exemple, donc voilà, qui proclame son adhésion et qui en fait mêle de façon vraiment inextricable la diffusion de ses idées et le personnage de Charlot, parce qu'il est aussi l'incarnation même de Dada, puisqu'il refuse tous les codes. Donc il est un personnage dadaïste en diable.
Comment se présente cette exposition? S'il fallait nous faire un peu l'itinéraire, s'il fallait aller avec vous, Claire Lebossé, déambuler dans cette exposition?
Alors cette exposition, elle place en son cœur le cinéma. C'est-à-dire que dans chacune des... L'exposition est organisée en 4 sections. Et chacune de ces sections part vraiment d'un montage d'une vingtaine de minutes d'extraits de films de Chaplin qui viennent en appui ensuite de la découverte des œuvres qui sont placées tout autour. Hein. La première thématique, c'est l'homme-machine. La façon dont, en fait,
les temps modernes, bien sûr.
Les temps modernes, mais tout simplement la démarche de Charlot, puisque c'est ça qui va influencer notamment Léger dès qu'il va découvrir le personnage de Charlot en 1916. C'est cette façon un peu saccadée de se déplacer. Finalement, c'est une figure cubiste en mouvement. C'est comme ça qu'il le perçoit. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça va évoluer dans son travail. Donc là, on va trouver des œuvres qui citent explicitement Chaplin, mais on va aussi trouver des œuvres de Kupka qui s'intéressent à la machine, Picabia qui lui aussi, qui regarde d'ailleurs le cinéma de Charlot, il en parle avec Duchamp, mais qui commence lui à faire des portraits mécanomorphes de ses amis. Donc comment la machine va petit à petit rentrer dans la vie quotidienne, puisque l'industrialisation c'est le 19e siècle, le 20e siècle c'est la machine qui est partout dans la vie et qui commence à arriver avec ses petits déboires que bien sûr les artistes vivent, que le public vit et que Charlot vit.
Thank you. Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes. Claire Le Bossé, ça c'est bien sûr au musée d'art de Nantes. Le visuel, comment il a influencé, comment il s'est peut-être aussi nourri des arts visuels, parce que est-ce que ça marche dans les deux sens?
On n'a pas de témoignage direct de ce que lui regardait en termes d'art. C'est vrai que la côte ouest où il était établi à ce moment-là, c'est pas le Los Angeles d'aujourd'hui, donc il avait probablement moins d'occasions de voir de la peinture notamment. Mais forcément, il était au courant de beaucoup de choses. Il voyageait beaucoup. On sait que dans les années 30, il devient ami avec Cocteau. Cocteau, il a publié notamment des textes collectifs avec les surréalistes autour de Chaplin, dont ils étaient vraiment des fervents. Donc il y a des choses qu'il sait forcément, mais il ne s'est pas exprimé sur ce sujet.
Alors cette exposition s'organise, vous l'avez dit, hein, Claire Le Bossé, autour de quatre thématiques. L'homme-machine, bien sûr, ça en a parlé, mais il y a aussi la poétique du monde. Ça veut dire quoi, la poétique du monde?
La poétique du monde, c'est la façon dont Charlot, dans ses aventures, puisque finalement ce sont vraiment une sorte de feuilleton qui se déploie sur l'écran, va réinventer l'usage des objets. Pour les surréalistes, c'est d'ailleurs quelque chose de fondamental, puisque Desnos dit de lui qu'il est révolutionnaire, et ça s'exprime notamment par ça, c'est qu'il connaît aucune convention. Pour lui, un être humain, un animal, un objet, c'est un petit peu la même chose. Et on va trouver dans certains de ses films, notamment, je pense à Charlot et l'usurier, où pour vérifier qu'un réveil fonctionne bien, il va sortir son stéthoscope et il va l'écouter. En fait, il va faire ça tout le temps. Lorsqu'il nettoie un tapis, il commence à le peigner avec un petit peigne qu'il a sorti de sa poche. Et en fait, bien sûr, ce processus, ce déplacement, cette façon de modifier le réel à peu de choses près, ça va beaucoup intéresser les surréalistes, parce qu'en fait, eux-mêmes, à ce moment-là, particulièrement dans les années 30, ils détournent les objets. C'est la grande exposition surréaliste d'objets de 1936 chez Charles Ratton. Et en fait, ils retrouvent exactement les mêmes procédés à l'œuvre au cinéma, dans le cinéma de Chaplin.
Il y a aussi le spectacle mis en abîme, mais ça, on en a parlé, et l'absurdité de l'histoire.
Tout à fait, l'absurdité de l'histoire. Alors déjà, l'histoire, elle est très très présente en filigrane dans toute l'œuvre de Chaplin, puisque ben voilà, Charlot est déjà un vagabond. C'est pas anodin de faire un héros d'un vagabond en 1914, alors que le capitalisme est triomphant, on est bien avant la crise de 29. Donc rien que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire, il est surtout resté pour le dictateur, qui est devenu quasiment un symbole. On n'a même plus besoin d'expliquer le film, il suffit de représenter Hinkle et le barbier juif, et on comprend tout de suite le message de paix et d'universalisme que porte Chaplin.
Alors, pour revenir à comment vous avez conçu cette exposition dans l'œil des avant-gardes, Claire Le Bossé, vous êtes partie d'abord des films de Charlie Chaplin ou de tout ce qui a été dit par les artistes de son époque autour de son œuvre, et comment ces films ont pu les influencer?
C'est un petit peu les deux en parallèle, en réalité. La redécouverte de ces films, il y en a 80 à peu près. Je dis à peu près parce qu'il y a des cours qui ne sont pas toujours complètement autorisés, mais il y a à peu près 80 films. Et puis en parallèle, un travail d'investigation pour retrouver ces textes, alors qui parfois avaient déjà été identifiés par des chercheurs, mais jamais d'une façon comme ça aussi globale. On trouve par-ci par-là, dans certaines études, des chapitres qui portent sur les cubistes et le cinéma, sur les surréalistes et le cinéma, mais cette façon de tirer le prisme Chaplin et pas le prisme, enfin le fil cinéma, mais vraiment le fil Chaplin n'existait pas. Donc ça a été aussi un petit travail de fourmi pour retrouver ces références et puis ensuite pour identifier et localiser ces textes pour qu'on présente nous dans la version originale.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et une autre exposition met en lumière le lien entre les arts plastiques et le cinéma, en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Art et cinéma, les liaisons heureuses, c'est jusqu'au 10 février. Johann Snerck, là c'est un peu plus global, hein, même si je suppose que bien sûr Chaplin a sa place dans ce dispositif.
Oui, absolument. Dans une des salles de l'exposition, on consacre une petite section au lien entre Chaplin et les artistes que Claire a évoqués, notamment Fernand Léger et Picasso. Mais nous, notre point de vue, il est plus global, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment, de la naissance du cinéma et des premiers films des Frères Lumière jusqu'à la Nouvelle Vague, voir quel type de lien il pouvait exister entre les artistes et les réalisateurs, les cinéastes de leur époque.
Voilà, et donc ces liens avec du cinéma avec les autres arts et leur influence réciproque, chez vous, prend plutôt un parcours chronologique. Hein. Et sinon, bien sûr, il mêle des extraits de films, de la peinture, de la sculpture, des photos, des affiches, mais aussi des costumes, des dessins, des maquettes.
Absolument, c'était vraiment aussi un des objectifs importants de l'exposition, c'était d'insister sur la transdisciplinarité et de mêler à la fois des objets issus du cinéma, des films, et puis tout ce qu'on trouve dans la production artistique de l'époque, donc peinture, sculpture, voilà, vous l'avez dit.
Et pourtant, Johan Snersch et Claire Le Bossé, puisque vous êtes avec nous, vous savez qu'un film est lui-même un musée en soi. C'est le musée qui récupère ces petits musées que sont les films avec ces expositions.
Oui, alors nous, ce dont on s'est rendu compte en travaillant sur l'exposition, c'est que souvent, le cinéma et les films avaient des places dans les expositions au sein du musée, mais souvent une place un petit peu marginale. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment les remettre un peu au même niveau que les productions artistiques de leur temps et adopter ce point de vue global et pas simplement avoir des films qui viennent en écho à des thématiques particulières.
Art et cinéma, les liaisons heureuses au musée des Beaux-Arts de Rouen avec cette visite de presse par le directeur et le conservateur en chef du musée, Sylvain Amic.
La particularité de cette expo ici au musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est de tout simplement faire l'histoire de ce phénomène transculturel entre un nouvel art et les arts anciens. Il y a eu beaucoup d'expositions par le passé, elles étaient toutes fragmentaires sur un réalisateur, une époque, etc. Il y en a en ce moment plusieurs autres en France, il y a Chaplin à Nantes, il y a Eisenstein à Metz, il y en a d'autres. On voit bien que le sujet préoccupe un grand nombre de conservateurs, conservatrices de musées et d'historiens et d'historiennes de l'art, mais il nous manque en fait un manuel, il nous manque l'exposition qui rassemble ces décennies de compagnonnage et le catalogue qui va avec, qui peut être pour l'étudiant ou l'apprenti cinéaste une bible, pour introduite par Olivier Assayas en plus, qui est aussi un plasticien à l'origine, une bible pour appréhender ces rapports incroyables entre cinéma et art plastique.
Très beau catalogue d'ailleurs, il faut le signaler, aussi bien pour art et cinéma, les liaisons heureuses, que pour Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes. Sylvain Amic au micro de Corinne Amar. Vous nous rappelez quand même que c'est devenu une tendance que d'exposer le cinéma, les cinéastes en ce moment.
Oui, alors vraiment, cet automne, c'est assez frappant. Sylvain Amic le rappelait, il y a à la fois notre exposition, il y a celle du Musée d'Art de Nantes, il y a Eisenstein au Centre Pompidou à Metz, il y a Cinématis à Nice. Donc on a l'impression que c'est un sujet dont on s'est un peu tous saisis en même temps, sans se concerter, puisque vous savez qu'une exposition, on commence à travailler dessus 2 à 3 ans avant sa date d'ouverture. Donc à un moment, on communique pas forcément entre nous sur les sujets qui vont nous intéresser 2 ou 3 ans plus tard, et on se rend bien compte que c'est un peu une tendance de fond en ce moment.
Ouais.
Moi j'y vois un signe très très positif, hein, un signe de décloisonnement, puisque comme vous le disiez justement, le cinéma a toute sa place au musée, c'est un art parmi les autres, je vais revenir à cette notion de 7e art de Canudo, et pour nous c'était très très important notamment de mettre en valeur le cinéma de Chaplin sans aucun objet précisément, de vraiment s'intéresser à l'œuvre, de pas aller chercher des éléments plus de l'ordre de l'archive, ou de vraiment traiter son cinéma comme une production d'avant-garde comme une autre, à côté des œuvres des plasticiens.
Alors si on n'a rien trouvé sur Charlie Chaplin, ce qu'il aimait, les peintres qui l'ont marqué ou qui l'auraient marqué. En revanche, pour les réalisateurs français et dans cette exposition Art et cinéma, les liaisons heureuses, on sait que les frères Lumière, par exemple, s'inspiraient des impressionnistes.
Oui, c'est ce qu'on montre, nous, dans la première salle de l'exposition. C'est un peu le premier moment fort de notre parcours, la juxtaposition entre les premiers films des Frères Lumière et les toiles impressionnistes qui ont 10 ou 20 ans de moins. Et donc, on est frappé par les rapprochements qu'on peut faire entre, d'un côté, les toiles, de l'autre côté, les films. On voit que les sujets traités sont exactement les mêmes, mais au-delà de ça, que les Frères Lumière sont complètement imprégnés des codes picturaux et de la culture picturale de l'époque, puisque même dans la façon de rendre les contrastes entre ombre et lumière, dans la façon dont leurs images sont cadrées, on retrouve vraiment la technique impressionniste qui, à ce moment-là, dans les années 1890, est vraiment en cours d'institutionnalisation. L'impressionnisme a 20 ans et pour une bourgeoisie éclairée dont font partie les frères Lumière, ce sont forcément des choses qu'ils connaissent bien.
Et on termine par le cinéma de la nouvelle vague, et là on apprend dans cette exposition que Godard rendait hommage à son ami Yves Klein quand il demande à Jean-Paul Belmondo de recouvrir son visage de peinture bleue.
Oui, alors c'est vraiment presque une des raisons qui nous a donné envie de faire cette exposition. Ouais. Vous savez que l'exposition, elle a été montrée pour la première fois sous une version assez différente en Espagne. Et ce parallèle entre Ferdinand, qui est joué par Belmondo, qui se peint le visage en bleu, et à côté un monochrome de Klein et une anthropométrie de Klein, c'est à la fois saisissant et en même temps tellement évident qu'on se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt. Et on s'est dit qu'on avait envie, nous, de montrer plus de ce parallèle et puis plus de parallèles aussi aussi frappants pour montrer au
ouais d'autant plus que Godard a insisté sur ce point-là et sur son amitié avec Yves Klein puisque dans À bout de souffle la fameuse scène finale se déroule devant l'atelier d'Yves Klein.
Voilà cette scène où on voit Poincard qui est traqué et qui se fait abattre en fait et qui va qui fait quelques pas et puis qui s'effondre. Elle est dans la rue Campagne Première qui est la rue de l'atelier d'Yves Klein et qui est aussi la rue dans laquelle il réalise une des versions de son saut dans le vide. Donc les films de Godard sont vraiment imprégnés de références au nouveau réaliste.
Et puis enfin, le pop art, bien sûr, avec Andy Warhol qui récupère les stars iconiques d'Hollywood.
Oui, alors le pop art, bien sûr, comme il s'intéresse à la culture populaire, très vite fait du cinéma et des icônes du cinéma, comme Marilyn Monroe notamment, un de ses sujets de prédilection. Nous, dans l'exposition, on montre cette œuvre de Mimmo Rotella, qui est un affichiste très célèbre et qui a beaucoup travaillé sur la figure de Marilyn Monroe et qui là découpe plusieurs affiches superposées pour faire apparaître cette Marilyn presque en reprenant les codes iconographiques d'une Assomption de la Vierge. Donc elle est entourée d'un ovale bleu. On a l'impression d'avoir des figures de saints à côté d'elle. Et elle est vraiment en majesté.
Toutes ces liaisons heureuses entre le pop art et les icônes d'Hollywood, mais aussi entre les frères Lumière et Claude Monet, entre Chaplin et Picasso, parce que ça vous mettez ça en valeur dans votre exposition entre Cocteau et Buñuel ou entre Klein et Godard. Est-ce que ces liaisons heureuses, pour en prendre l'intitulé de votre exposition, Johann Streich, est-ce que ça continue aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui le cinéma contemporain continue à dialoguer avec la peinture, la sculpture?
Oui, absolument. Plus que jamais. Et d'ailleurs, ça fait l'objet en fait d'une deuxième exposition à Rouen au FRAC Normandie. Une exposition qui s'appelle
Quand la vidéo rejoue le cinéma.
Voilà.
Remake,
exactement. Mmh. Où en fait leur exposition reprend le parcours de la nôtre, mais traité d'un point de vue contemporain chez des artistes des années 70, 80, 90.
Pierre Bosset, pour terminer.
Bah, la référence à Chaplin, elle existe toujours. C'est toujours frappant quand on lit des interviews de réalisateurs ou d'acteurs qui continuent à dire que le cinéma de Chaplin les a marqués. Mais je crois que même l'imaginaire de Chaplin, il a largement dépassé celui du cinéma. Aujourd'hui, c'est quand on ouvre la presse et qu'on lit un article sur une problématique contemporaine, on va retrouver une image de Chaplin. Donc son imaginaire a imprégné le monde bien au-delà de la sphère du cinéma.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, c'est au musée d'art de Nantes jusqu'au 3 février. Art et cinéma, les liaisons heureuses, c'est au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 10 février. Merci aux deux commissaires de ces deux expositions d'être venus ce matin. Claire Lebossé, merci.
Merci.
Et merci à Johann Streich.
Merci à vous.
J'ai fini par bien prononcer votre nom, vous voyez bien. Allez, bonne matinée.
Au revoir.